Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
C'était il y a 30 ans aujourd'hui, le 17 janvier 1991, commençait l'opération Tempête du désert qui marquait le début de la reconquête du Koweït envahi 5 mois et demi plus tôt et le commencement de la fin du régime de Saddam Hussein en Irak. Nous sommes en compagnie de Roland Lombardi, historien spécialiste du Moyen-Orient, auteur des 30 honteuses et de Poutine d'Arabie chez VA Éditions. Roland Lombardi, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. La crise du Golfe avait commencé 5 mois et demi plus tôt avec l'invasion du Koweït le 2 août. Est-ce que pendant ce laps de temps, tout a été fait pour éviter la guerre ?
Alors il y a eu un intense balai diplomatique, surtout avant le 2 août, donc avant l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Donc avant le 2 août, beaucoup de négociations en coulisses, sur la scène diplomatique. La dernière en date, c'était le 30 juillet 90, où il y a eu une réunion de conciliation à Jeddah, sous l'égide de l'Arabie Saoudite, entre l'Irak et le Koweït, mais ça avait échoué. Donc après l'entrée des chars de Saddam au Koweït, il était certain qu'on allait faire parler la poudre, même si jusqu'à la fin de l'ultimatum qui était le 15 janvier, la Russie, avec l'aval des États-Unis, a essayé de faire entendre raison à Saddam Hussein en envoyant son émissaire principal qui était Evgeny Primakov, le grand orientaliste et diplomate russe. Mais ce fut un échec.
Alors, quelle est la position de la France, c'est-à-dire de François Mitterrand, qui était chef de l'État à l'époque, au début du conflit ? C'est plutôt la négociation au nom de la fameuse politique arabe de la France ou le suivisme des Américains ?
Alors, la France, dès le tout début de la crise, est dans une position délicate, parce que je vous rappelle que l'Irak est un gros client de la France. Nous avons beaucoup aidé Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak. Les exportations françaises en Irak, ça représente 3 milliards de dollars. Puis nous avons aussi construit sa principale usine nucléaire
Aux Irak,
qui avait été détruite en 81 par les Israéliens. Donc là aussi, on a essayé, par des émissaires plus ou moins secrets ou discrets, la négociation. Mais bon, la France n'avait plus de voix déjà à l'époque au Moyen-Orient. Et c'était clair qu'on s'acheminait là aussi vers le conflit, un conflit ouvert. Et puisque dès le 6 septembre 1990, Mitterrand évoquera une logique de guerre. Donc oui. L'opinion était préparée.
Alors après, mais est-ce que la France avait encore le choix après l'invasion de son ambassade à Koweït City en septembre 90, justement ?
Ben non, puisque nous étions dans un tournant, nous étions à la fin de la guerre froide, nous étions alliés des Américains, un des principaux alliés américains, et surtout il y avait un mandat de l'ONU. Donc, et contre les lois internationales, Saddam Hussein avait agi contre les lois internationales en envahissant un voisin. Donc nous avions le droit avec nous, et surtout il fallait montrer que nous étions une puissance moyenne, mais que nous aussi, nous pouvions défendre aussi nos alliés partenaires, notamment dans le Golfe, qui étaient nombreux.
Alors justement, le 17 janvier, il y a 30 ans aujourd'hui, commence plus d'un mois de bombardement, c'est l'opération Tempête du désert. Quand on voit la coalition, sa puissance, la guerre était gagnée d'avance.
C'est clair que sur le papier, bon, c'est la plus grande alliance militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. La coalition représente 34 pays, avec près d'un million d'hommes, avec pour moitié, il faut bien le rappeler, des Américains. Donc c'est une formidable armada. Sur le papier, en face, l'armée irakienne représente en gros 600 000 hommes. Alors, on n'a pas beaucoup parlé à l'époque, c'était la quatrième
armée du monde, c'est ce qu'on nous répétait sur tous les médias. Justement, est-ce que c'est pas vraiment la première guerre avec les médias, notamment CNN, que la propagande devient mondiale ? Parce que l'Irak, quatrième armée du monde, toute personne qui avait un peu de connaissances militaires riait en entendant ça.
Bien sûr, c'était beaucoup de l'intox, mais de part et d'autre, c'est de la part pour Saddam Hussein, c'est de l'intox, et bien pour les Américains aussi. Vous savez, c'est comme César, il fallait un peu glorifier l'adversaire pour que la victoire soit plus belle. Mais aussi, c'est vrai qu'avec la CNN, les médias, ça a été la première guerre couverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par les médias. Mais voilà, l'armée irakienne, même si elle avait acquis une certaine expérience pendant les 8 ans de la guerre Iran-Irak, c'est une une armée vieillissante, usée, avec un matériel très ancien. Et bon, c'est sûr qu'elle ne faisait pas le poids face à la formidable
coalition
qui se mettait en place.
Alors justement, un peu plus d'un mois plus tard, c'est l'opération Sabre du désert. Les forces irakiennes sont anéanties en quelques jours.
C'est ça. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu un mois de bombardement intensif. Alors, ça représente quand même 100 000 sorties aériennes.
Oui.
Près de 90 000 tonnes de bombes qui vont détruire toutes les infrastructures civiles et surtout militaires irakiennes. Et là, on rentre donc au bout d'un mois dans la phase terrestre. Donc c'est ce qu'on a appelé à l'époque l'offensive des centeurs, puisque en centeur, ça a été pratiquement réglé.
Oui.
Donc là aussi, là, c'est la première guerre, comme je le disais tout à l'heure, c'est la première guerre moderne pour les Occidentaux et surtout pour les Américains qui vont étaler toute leur puissance et leur supériorité technologique. Et je vous rappelle qu'à l'époque, c'est les premières bombes, enfin, l'utilisation officielle des premières bombes à guidage laser, le GPS.
Les missiles de croisière, les Tomahawk.
Voilà. Exactement. Donc les caméras embarquées sur les avions et sur les missiles, donc les GPS qui va permettre de localiser avec précision les cibles ennemies. Donc ça commence le 23-24 février, dans la nuit du 23-24 février, le 26 février, c'est fini quoi. Au bout de 100 heures, c'est fini.
Et alors justement, l'intervention elle se termine un mois et demi plus tard, le 28 février. Est-ce qu'il aurait fallu aller jusqu'à Bagdad, comme certains l'ont dit ?
Surtout pas. Surtout pas. George Bush père, je précise, parce que je vais parler de son fils, est un réaliste. Je vous rappelle qu'il a été patron de la CIA dans son passé, donc il connaît très bien la région. Il sait très bien que c'est quand même assez risqué d'aller plus loin. Premièrement parce que, tout à l'heure j'ai oublié de le dire, mais l'élément qu'on craignait le plus c'était la garde républicaine, qui était les forces d'élite du régime, mais qui n'étaient pas aux avant-postes, qui étaient plutôt en retrait sur le territoire irakien, justement pour protéger les axes centraux du régime. Mais surtout, Bush père savait que si on faisait tomber Saddam, eh bien, ça déstabiliserait le pays et la région. Et d'ailleurs, son fils, 13 ans plus tard, entouré de conseillers néoconservateurs, aura moins de scrupules sur ce côté-là, et on a vu les
résultats.
Quels ont été les résultats pour l'Irak, pour la région et pour le monde.
La division d'Aghès était 12 500 hommes, on n'en a que 5 100 au Mali aujourd'hui, donc c'est plus du double. La collaboration de la France a-t-elle été importante dans cette coalition ?
Oui, quand même. Hein. C'est une division qui était issue à l'époque de la force d'action rapide commandée par le général Roque Joffre. Ce sont des soldats de métier. Hein. Aucun appelé n'a été envoyé parce qu'à l'époque, je vous rappelle qu'il y avait encore le service militaire.
La conscription, oui.
Voilà. Alors aucun appelé n'a été envoyé sur l'état d'opération. Donc ce sont des soldats de métier, troupes de marine, spahis, para, légionnaires. Alors elle aura un rôle quand même essentiel puisqu'elle sera ce qu'on appelle dans le jargon militaire en flanc garde, c'est-à-dire elle sera au nord-ouest, à l'extrémité du dispositif nord-ouest, pour rentrer dans le territoire irakien, sur le sol même irakien, qui visait, je crois, la base de la ville de As Salman, avec son aéroport et son nœud routier. Donc, elle a quand même réussi cette opération avec succès. Donc, ça a été salué d'ailleurs par les Américains. Petite note
très rapidement,
qu'on connaît peu. Les forces spéciales à l'époque, les CRAPS, qui sont aujourd'hui...
Commando de renseignement et d'action profondeur.
Voilà. Aujourd'hui, groupement des commandos parachutistes, ont été en première ligne avec les éléments des célèbres 82e Airborne et 101e Airborne pour sauter derrière les lignes ennemies, faire les repérages et les ciblages de cibles.
C'est les deux divisions qui ont sauté les premières sur la Normandie. Merci beaucoup, Roland Lombardi,
merci
historien, spécialiste du Moyen-Orient, auteur des 30 honteuses et de Poutine d'Arabie. C'était il y a 30 ans. Le début de l'opération Tempête du désert. Dans la prochaine demi-heure, le livre du dimanche, Planète Méditerranée, un livre de Laurent Balesta, absolument fabuleux. La sélection musicale de Bruno Dubois, on aura Elle, Mesparo et Pearl Charles, un mélange de ABBA et de Eagles, je connaissais pas, c'est génial. Et ensuite, on parlera de la fermeture de 9 mosquées en France en compagnie de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brignaud.